Mémoire vive,
présentée par Christelle Le Polothèque
et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Roger Fichtenberg pour son journal d'un résistant juif dans le Sud-Ouest qui vient de paraître dans la collection Témoignages de la Shoah de la Fondation pour la mémoire de la Shoah en coédition avec le manuscrit. Dans la préface, Serge Klarsfeld a écrit « Roger Fichtenberg publie ses mémoires et fête son 94e anniversaire. Juif français depuis ses arrière-grands-parents, il appartient à la génération de ceux qui ont eu 20 ans au début de l'occupation. La chance, ou plutôt son sang-froid, lui ont permis d'éviter la catastrophe pour ses parents et pour lui-même. Au lieu d'être une victime, il a été un héros tranquille et modeste. Il raconte ses activités de guerre comme il décrit ses activités en temps de paix. Mais ses amis et désormais ses lecteurs savent que pendant 4 ans, au lieu de ne penser qu'à survivre, il s'est concentré sur la survie des Juifs persécutés, en particulier celle des enfants et des familles dans la misère. Pour tout cela, Roger Fichtenberg, vous avez été décoré, vous avez même été élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur en 2014. Dans ce livre, vous revenez sur vos années de guerre avec une précision incroyable, dans les moindres détails, puisque il faut dire que vous avez gardé tous vos agendas de l'époque et qui vous ont été donc très utiles. On peut aussi citer l'historienne Cathy Hazan qui a annoté le livre. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on reprenne le fil de ce récit et débuter en 1940. La France vient de perdre la guerre et vous décidez, avec votre famille, de quitter Paris pour aller dans l'Allier.
Oui, c'est vrai. Nous avions dans la nuit entendu le bombardement. Donc, on a pris conscience que les armées allemandes étaient très proches de Paris, beaucoup plus proches qu'on nous le disait dans les communiqués officiels. Alors mes parents ont décidé de quitter Paris. C'était le même jour d'ailleurs que le gouvernement. Donc on voit bien que c'était la dernière minute pour quitter Paris. Et nous avons rejoint la Palisse dans l'Allier à 25 km de Vichy où une partie de la famille était déjà depuis le début de la guerre. Alors nous voilà maintenant réfugiés à la Palisse et je vais mener une vie de réfugié. À ne pas trop savoir quoi faire. Heureusement que j'avais fait des copains sur place et que les parents de ces copains étaient pharmaciens, m'ont proposé de faire un stage d'apprenti préparateur. Pour moi, c'était une découverte, c'était intéressant. Et puis, ça meublait mes journées. Jusqu'à un jour du printemps 1941, où deux éclaireurs du mouvement des éclaireurs israélites de France, venus de Vichy tous les deux, parcouraient la Palisse à la recherche de familles juives pour monter une troupe de scouts à la Palisse. Immédiatement, je leur ai dit que je n'étais pas scout, que je connaissais très bien la méthode Baden-Powell et que j'étais à leur disposition. C'est ce que j'ai fait, ça a marché. On a créé une troupe, une toute petite troupe qui s'appelait la troupe Daniel. Et puis moi-même, j'ai fait un apprentissage très poussé. J'ai fait des camps de chefs et plusieurs camps. Et j'ai été pris en main par Henri Val, qui était le commissaire de district de Vichy. Et on n'imaginait pas à cette époque que Henri Val allait devenir le chef de la sixième, la fameuse sixième, dont on va certainement parler maintenant.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous rentrez finalement grâce à cette rencontre avec des membres des EI. Vous recevrez d'ailleurs le totem de Jaguar délicat, c'est bien ça?
Oui, c'est même Théo Klein, une personnalité du journalisme bien connue, qui m'a totémisé lors d'un camp que nous avions tenu au-dessus d'Aix-les-Bains, conjointement avec les troupes de Vichy, Clermont-Ferrand, Lyon, etc. Un camp énorme, nous étions une centaine. Le chef, c'était un de la sixième aussi, qui a disparu, c'est Claude Gutmann, Griffon. C'était lui le chef de camp. Ça m'a beaucoup apporté. Moi, enfant unique, je découvrais un peu la fraternité. C'était une bonne découverte, agréable. Et puis, je découvrais le judaïsme. Voilà. Le judaïsme vivant, comme on le vit chez les éclaireurs.
Vous aurez l'occasion de vous engager pleinement, peu de temps après, puisqu'on rappelle brièvement, en mars 1942, vous êtes incorporé presque de force au chantier de jeunesse, qui était une organisation pour la jeunesse pétainiste.
Non, c'était ce qui remplaçait le service militaire.
D'accord.
C'était un service civil qui remplaçait le service militaire. Tous les jeunes étaient astreints à cela. Alors, le côté amusant de la chose, si l'on peut dire, c'est que moi, ça ne me disait rien du tout d'aller faire le bûcheron dans les forêts de Saône-et-Loire. Alors, j'aurais préféré faire mon service dans l'armée. Et comme mon voisin de palier était le commandant Colliou, qui fut d'ailleurs un héros de la résistance, et qui commandait le 3e bataillon du 152e régiment d'infanterie, par son intermédiaire, j'avais fait une demande pour m'engager dans l'armée de l'armistice. Et c'est une toute petite armée d'opérettes. Hein. Et ben, ça n'a pas marché. La réponse est revenue très, très rapidement. L'intéressé étant juif ne peut être autorisé à s'engager. Alors, je suis parti au chantier de jeunesse. Étonné, on me refuse dans l'armée, mais on m'appelle dans les chantiers de jeunesse. Ça n'a pas duré. Au lieu de faire mon service jusqu'au mois d'octobre, au mois de juillet, on me fout à la porte. Mais je dois dire que le chef qui m'a fichu à la porte l'a fait sur ordre et lui-même était écœuré de la décision qui était prise à ce sujet. Alors, coïncidence extraordinaire, je suis libéré, j'arrive chez moi à la palisse et les premiers mots de ma mère sont pour me dire « Castor, t'attends demain à Vichy ». Qui est Castor? C'est Robert Gamzon, le commissaire national des éclaireurs israélites de France. J'y tiens, qu'est-ce qu'il me veut? Le lendemain, je me rends à Vichy. Bien entendu, je vais directement chez Henri Val, qui était un magasin d'optique rue Lucas. Et Henri me dit, on va à l'UGIF, Castor nous attend. On va là-bas et effectivement, Castor avait réuni tous les chefs éclaireurs de la région. Et il nous dit, voilà, par un ami proche du gouvernement, nous savons maintenant qu'il s'agissait de M. Le Sage, qui figure d'ailleurs sur le mur des Justes, et il nous dit, voilà, j'ai appris par lui que demain, il y a une rafle de Juifs étrangers. Alors, vous allez donner l'alerte, et puis quand vous aurez fini, vous prendrez le train et vous rejoignez Moissac, le quartier général des éclaireurs, puisque depuis le début de la guerre, le quartier général était replié à Moissac. Vous attendez les ordres, vous êtes tous mobilisés. Voilà comment les choses ont changé. Nous n'étions pas encore la 6e, nous allions le devenir.
Dans les premiers temps, donc là c'est l'été 42, quelle va être votre activité justement au sein des EI? C'est surtout donc le cacher des enfants juifs étrangers, je crois même jusque dans votre famille, vous allez les cacher?
Alors, on part au plus pressé. Bon, on avait dans la nuit qui précédait cette rafle dont je parlais à l'instant, grâce à l'alerte, près de la moitié de ceux qui devaient être raflés ont pu échapper. Et seulement, voilà, ils étaient planqués, et qu'est-ce qu'on allait faire? Alors, la première difficulté qui se posait à nous, c'était le problème de la carte d'alimentation. Parce que la carte d'alimentation, il y avait à l'intérieur un feuillet qu'il fallait changer chaque mois. Il fallait donc chaque mois aller à la mairie pour changer le feuillet intérieur. Et il est évident que les gens qui étaient planqués ne pouvaient pas le faire. Alors, il a fallu, nous, je dirais, comme on est des débrouillards chez les scouts, on a trouvé un premier truc, ça a été de faire le lavage des cartes d'alimentation, c'est-à-dire qu'on l'a trempé quelques instants dans une bassine avec un peu d'eau et très, très, très peu d'eau de Javel pour effacer ce qu'il y avait dessus, on laissait sécher, un coup de fer à repasser et on réécrivait un autre nom. Oui, mais il fallait quand même aller à la mairie pour changer l'intérieur dont je parlais. Alors là, il a fallu trouver des mairies complices. Et je dois dire qu'on en a trouvé très rapidement et très facilement. Parce que ce problème de carte d'alimentation était très important, comme tout était contingenté, que si on n'avait pas la carte d'alimentation, comment est-ce qu'on pouvait s'alimenter ? Voilà. Alors, après, la carte d'alimentation, ça a été la carte d'identité. Il faut dire que la carte d'identité, c'était quelque chose qui n'était pas très répandu avant-guerre. Par exemple, mon père n'avait jamais eu de carte d'identité avant la guerre. Son permis de conduire lui servait de pièce d'identité vis-à-vis de la poste, par exemple. Alors, qui délivrait les cartes d'identité ? Principalement les mairies, quelquefois les commissariats de police, et ça allait quelquefois par la préfecture, mais très très rarement. La plupart du temps, c'était les mairies. Donc, il fallait trouver des mairies complices pour avoir des faux papiers d'identité. Les premiers, les tout premiers qui nous ont aidés, ça a été nos camarades, nos frères scouts, protestants, les éclaireurs unionistes de France, qui nous ont fait passer des cartes d'éclaireurs unionistes pour nos jeunes. Alors, on écrivait des noms francisés et voilà, le problème était réglé. Vous savez qu'à cette époque, la majorité était à 21 ans, pas 18 ans comme maintenant. Et jusqu'à 21 ans, eh ben, une carte d'éclaireur, une carte d'écolier, une carte d'étudiant, ça servait de pièce d'identité. Alors, carte d'alimentation réglée, carte d'identité réglée, évidemment, après nos jeunes, il fallait penser à leurs parents et puis à ces gens qu'on avait aidés à planquer dans la première nuit. Alors, donc, notre travail ne s'est pas contenté des jeunes gens et des jeunes filles, mais aussi des adultes, de leurs parents et amis.
Ce qui est aussi très intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez donc que vous aviez de nombreuses complicités dans les mairies ou même à la police pour obtenir des tampons ou pour prévenir des rafles. Mais vous racontez aussi un peu plus tard que vous aviez réussi à libérer des prisonniers du camp de Rivesaltes en leur amenant des faux papiers et des autorisations de visite. C'est-à-dire que vous rentriez avec des autorisations de visite.
Ah, ça, c'est autre chose. J'ai été envoyé au mois de novembre 1942 au camp à Perpignan. Et parmi les missions que j'avais, c'était de favoriser les évasions du camp de Perpignan, du camp de Rivesaltes. Alors, c'était relativement simple, justement grâce à la complicité d'employés de la mairie et de la préfecture des Pyrénées-Orientales. C'était simplement, on me remettait des autorisations de visite en blanc. Il suffisait que j'entre au camp, remplissant les autorisations de visite et des internés devenaient des visiteurs et pouvaient ressortir. Ça ne pouvait pas se faire sur une grande échelle, vous le comprenez bien, mais une fois qu'ils étaient sortis, je leur faisais des faux papiers. Et pour ça, j'étais installé au bureau de l'UGIF, mais ça s'est su. Il y a eu une descente de police et j'ai dû quitter Perpignan, je dirais, un peu précipitamment. Mais ça a été pour d'autres missions, c'était pas grave. On m'a relevé et puis voilà.
Parce que vous avez été donc à partir de 1943, alors que la sixième commence à s'organiser, vous avez été également chargé de plusieurs départements.
C'était pas encore. C'était à la fin de 1942. D'abord, j'ai eu une mission, c'était de conduire des enfants à la frontière suisse, à Annemasse. C'était peu de temps après l'occupation complète de la France, mais cette région était, elle, occupée par les Italiens, auxquels il faut rendre hommage, parce que vraiment, ils nous ont beaucoup aidés. Bon, ça pourrait presque être l'objet d'un livre entier, l'aide des Italiens.
Aider réellement, c'est-à-dire, on sait qu'ils ont été plus laxistes, mais vous avez le sentiment d'avoir été...
Ça, je peux vous dire, puisque les autorités italiennes se sont opposées même à l'application des lois de Vichy. Par exemple, quand le tampon juif a été obligatoire sur les pièces d'identité, eh bien, en zone italienne, les Italiens s'y sont opposés. Bon, on m'a cité un jour, je ne sais pas si c'est vrai, mais je voudrais bien le vérifier, que des gendarmes français faisant du zèle avaient arrêté des familles juives à Annecy et que les Italiens sont venus, ont cerné la caserne de gendarmerie pour faire libérer les Juifs. Voilà. Et je sais pertinemment aussi que lorsque les Italiens ont capitulé, ils ont fait passer le maximum de Juifs en Italie.
Oui.
Alors ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, novembre 1942, je fais passer un convoi en Suisse, grâce à des passeurs, bien entendu, parce que je connaissais pas les lieux. Mais ce qui était beaucoup plus embêtant, c'était les Suisses, parce qu'eux, ils ne se gênaient pas pour refouler tous les enfants qui étaient même de quelques mois au-dessus de 16 ans. Ça, ils étaient absolument intraitables. Et encore à ce moment-là, les Suisses étaient très bien. Ils l'ont été beaucoup moins bien lorsque les Allemands ont remplacé les Italiens, parce que les Suisses livraient aux Allemands, ils ne se contentaient pas de refouler.
Cette Alors, activité,
si, on,
oui.
si on rend hommage aux Italiens, il faut dire aussi la vérité pour les Suisses. J'ai des amis suisses et je ne me suis jamais gêné pour leur dire quelle l'attitude de leur pays pendant la guerre et de la Croix-Rouge
internationale. Ouais. Cette activité de sauvetage des enfants, vous l'avez continuée presque tout au long de la guerre, puisqu'ensuite vous avez été réquisitionné pour le STO et vous avez continué à Moissac.
Oui, ça je me suis débrouillé pour me faire... affecté sur place. On a fait ça avec Bouly et j'ai pu avoir une affectation sur place, ce qui m'a permis de rester officiellement à Moissac. J'avais un problème. Lorsque je quittais Moissac, j'avais des faux papiers sur moi, mais à Moissac, j'étais forcément Roger Fischlambert.
Voilà. Et votre famille était avec vous, en tout cas, était à Moissac. Vous avez fait venir votre famille.
Oui, j'ai fait venir mes parents à Moissac et même ma mère a travaillé au secrétariat des EI avec Marc Yagnou. Alors, vous évoquiez alors la région dont j'étais responsable. C'est en mars 1943 que la 6e s'est organisée. Jusqu'alors, on paraît au plus pressé, hein. Prends cet enfant-là et conduis-le là, et on se baladait dans toute la France. Ça a coûté très, très, très cher. À ce propos, je voudrais dire aussi un petit coup de chapeau à l'American Joint Distribution Committee qui nous donnait des fonds. Et si nous n'avions pas eu l'argent des Juifs américains, il n'y aurait pas eu de résistance. Parce que tout ce qu'on faisait, ça coûtait très cher. Nos déplacements, hôtels, restaurants, chemin de fer, autocars, quelquefois même taxis, tout ça coûtait la peau des fesses. Et lorsqu'on accompagnait des enfants, parce que des jeunes quelquefois étaient mineurs et même souvent mineurs, donc on en était un petit peu responsable et par conséquent ça doublait les frais. Alors à partir de mars 43 justement on a organisé des régions, ce qui nous évitait de courir à travers toute la zone sud. On restait à travailler dans notre secteur. Voilà. Alors bien entendu, nous avions des réunions communes de tout le monde qui étaient très intéressantes parce que c'est au cours de ces réunions qu'on échangeait des renseignements, on échangeait du matériel, etc. Mais moi, dans ma région, je peux faire ça et moi, dans la mienne, je peux faire ceci. Et ça nous permettait justement de nous orienter un petit peu dans notre travail clandestin.
Ce travail...
Et alors, donc... organisation de secteur et aussi organisation un peu des finances. Parce que Marc Yagnou, qui était le trésorier, justement, c'est parce que Marc Yagnou était officiellement le directeur de la 6e section de l'UGIF. C'est comme ça que nous nous sommes appelés la 6e.
Je vais un peu vite, hein. je suis
désolée.
Mais
vous avez raison, c'est moi qui suis trop long.
Non, je vous en prie. Mais j'aimerais bien qu'on évoque aussi cette période de votre vie, c'est-à-dire en 1944, vous vous engagez dans les corps francs de la Libération.
Oui, j'ai eu la chance de pouvoir, comme ça, par hasard, je cherchais le contact et il est tombé du ciel et je suis tombé sur le colonel qui commandait la sous-région de Toulouse, directement sous les ordres de Ravanel, qui était à Toulouse. Et avec son adjoint, qui était le chef des maquis du Lot-et-Garonne, et entre parenthèses, c'était un médecin juif allemand, qui, 15 jours après la libération, a été immédiatement naturalisé français et a reçu la Légion d'honneur. Voilà. Alors, je suis tombé sur eux, ça a été une chance. Ils se sont beaucoup intéressés à ce que je faisais. Ils sont tombés un peu du ciel quand je leur ai raconté ma petite histoire.
Parce qu'ils ne connaissaient pas du tout les activités de la
Non, pas du tout. Leur action était complètement différente. Et m'ont dit, mais c'est formidable parce que ça va être complémentaire, parce que tu vas continuer ce que tu fais, parce qu'il n'y aura personne d'autre pour le faire à ta place. Donc tu continues, mais je vois que tu es un spécialiste des faux papiers, alors là tu vas avoir du boulot parce que nous, là-dedans, on n'est pas du tout outillés. Alors tu vas avoir du boulot, et puis comme tu n'es pas trop con, eh ben, tu vas écrire quelques articles pour la presse clandestine, et rédiger des tracts, etc. T'inquiète pas, il y a du travail pour toi. Et alors aussi, tu vas créer des groupes de villes. Qu'est-ce que c'était les groupes de villes? C'est ce qui est devenu la Libération, les milices patriotiques. On savait très bien que le jour où les Allemands allait partir, il allait y avoir un vide, heureusement, bien entendu, ce vide, mais il fallait aussi qu'il n'y ait pas trop de chahut et pas trop de problèmes. Et il y en a quand même eu, malgré les mesures qu'on a prises. L'exemple type qui me hérisse toujours, c'est l'histoire des femmes tondues, mais... Ça, c'était une petite chose. Il y a eu des exécutions sommaires. Et ça, c'est pas normal. Il fallait rétablir la République. Et ça, c'était pas si facile, du jour au lendemain, de passer d'une période d'occupation allemande et rétablir les libertés républicaines.
Ce qui est frappant aussi, Roger Fichtenberg, c'est que vous avez choisi... dans l'immédiate après-guerre à la Libération, de vous engager à nouveau auprès des réfugiés. Vous êtes entré au Cojasor, notamment à la Maison de la Cône, et c'est quelque chose que vous avez continué plusieurs années, de travailler au Cojasor.
Oui, tout ça, c'est un enchaînement. Vous voyez, quand j'ai été démobilisé, j'ai été réquisitionné, si je peux dire, par le directeur départemental du ministère des prisonniers déportés réfugiés qui m'a dit on va avoir dans quelques jours l'afflux massif des prisonniers qui vont rentrer. J'ai besoin de quelqu'un pour organiser cette campagne du retour et je compte sur toi. C'est comme ça que je suis rentré au ministère. J'ai participé. C'était évidemment limité dans le temps avec le retour des prisonniers. C'est-à-dire que je suis resté au ministère du mois de mai au mois d'octobre 1945. Mm-hmm. Alors, un jour, j'ai reçu la visite de Sigogne, c'était un des deux fondateurs des EI, qui était directeur du bureau du Cojasor de Agen, où je me trouvais, coïncidence. Et Sigogne, venu avec Simon Perle, me dit « Écoute, c'est très bien le boulot que tu fais au ministère, mais nous, voilà, on a 120 juifs allemands qui ont été foutus à la porte d'Allemagne au début de la guerre, au moment où Hitler n'avait pas encore décidé de massacrer les juifs, mais au contraire voulait s'en débarrasser. Et ils traînent dans les camps en France depuis. Alors, on ne veut pas qu'ils passent encore un hiver dans un camp. Ils sont à Masseux, dans le Gers. Notre assistante sociale du Tarn a trouvé un hôtel à La Cône et on va les transférer dans cet hôtel. Et toi, tu vas t'occuper de l'administration. L'assistante sociale va s'occuper du bien-être de tous ces gens. Une petite parenthèse, la dite assistante sociale est devenue ma femme. Voilà. Alors, j'ai fait ce travail à La Cône qui a beaucoup plu. J'ai eu la visite du directeur du Joint qui était époustouflé de voir combien ces gens étaient bien traités dans cet hôtel. Je dois dire que pour ma part, j'ai un souvenir éblouissant. C'est quand ils sont arrivés, qu'ils sont entrés dans cet hôtel, eux qui sortaient d'un camp, et qu'ils ont vu une salle à manger avec des nappes sur les tables, des femmes de chambre avec des tabliers pour les servir à table. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et c'était pour eux un bonheur terrible. Alors je suis resté un an à La Cône, et avec ma fiancée, nous avions dit à Julien Gauzian, qui était directeur de Cogasor, qu'on voudrait rentrer à Paris pour se marier à Paris. Et Julien Gauzian nous a répondu, ne vous inquiétez pas, il y a du travail pour vous ici. Et effectivement, j'ai eu un service extrêmement important à diriger au Cogasor pendant 5 ans.
Je vous remercie beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions, Roger Fichtenberg. Alors, pour les auditeurs qui ont été captivés par votre histoire, je rappelle que votre livre, Journal d'un résistant juif dans le Sud-Ouest, vient de paraître. Donc, dans la collection Témoignages de la Shoah, de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, en coédition avec le manuscrit, les auditeurs peuvent notamment le trouver à la librairie du Mémorial de la Shoah ou le commander sur Internet. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.